Chapitre 3. Les Anglais au XVIIe siècle. Locke, ses idées sur la liberté humaine, sur la morale, sur la politique générale, sur la politique religieuse. Locke. Locke, fort instruit en sciences diverses, physique, chimique, médecine, souvent mêlé à la politique, très éclairé par la vie, par de nombreux voyages, par d'intéressantes et illustres amitiés, toujours étudiant et réfléchissant jusqu'à une vieillesse assez avancée, n'a écrit que des œuvres très méditées, son traité sur le gouvernement civil et son essai sur l'entendement. Locke semble n'avoir écrit sur l'entendement que pour réfuter les idées innées de Descartes. Pour Locke, il n'y a pas d'idées innées. L'esprit, avant sa rencontre avec le monde extérieur, est une table rase, et il n'y a rien dans l'esprit qui n'ait été d'abord dans les sens. Qu'est-ce donc que les idées ? Ce sont les sensations enregistrées par le cerveau, et ce sont aussi les sensations élaborées et modifiées par la réflexion. Ces idées, ensuite, s'associent entre elles de manière à former une foule énorme de combinaisons. Elles s'associent d'une manière naturelle ou d'une manière artificielle. D'une manière naturelle, c'est-à-dire conformément aux grandes premières idées simples que nous a données la réflexion. Idée de cause, idée de but, idée de moyen pour un but, idée d'ordre. Et c'est l'ensemble de ces associations que l'on nomme communément la raison. Elle s'associe accidentellement, par hasard, par effet de l'émotion, par effet de la coutume, et alors elle donne naissance à des préjugés, erreurs, superstition. Les passions de l'âme sont des aspects du plaisir et de la douleur. L'idée d'un plaisir possible fait naître en nous un désir qui s'appelle ambition, amour, avidité, gourmandise. L'idée d'une peine possible fait naître en nous la crainte et l'horreur, et cette crainte et horreur s'appellent haine, jalousie, colère, aversion, dégoût, mépris. Au fond, nous n'avons que deux passions, le désir de jouir et la peur de souffrir. La liberté de l'homme. L'homme est-il libre ? En faisant appel à l'expérience et en se réclamant d'elle, et d'elle seule, et non pas du sentiment intime, Locke déclare que non. Une volonté lui semble toujours déterminée par une autre volonté, et cette autre par une autre, à l'infini, ou par un motif, un poids, un mobile qui la font pencher à droite ou à gauche. Il y a bien volonté, c'est-à-dire désir précis et vif, de faire une action ou de continuer une action ou de l'interrompre. Mais cette volonté n'est pas libre, car se la figurer libre, c'est se la figurer comme capable de vouloir ce qu'elle ne veut pas. La volonté est une inquiétude d'agir en tel ou tel sens, et cette inquiétude, à cause de son caractère d'inquiétude, d'émotion forte, de tension de l'âme, nous semble libre. Nous semble une force intérieure qui est autonome et indépendante. Nous prenons conscience de la volonté dans l'effort. Ne nions pas cette tension, mais sachons bien qu'elle est l'effet d'un puissant désir que l'obstacle excite. Cette tension n'indique donc rien, sinon que le désir est vif et qu'il y a un obstacle. Or, ce désir, si vif qu'il est hérité par l'obstacle et qu'il nous bande, pour ainsi parler, contre lui, c'est une passion qui domine et qui remplit tout notre être. De sorte que nous ne sommes jamais plus passionnés que quand nous croyons vouloir et que, par conséquent, plus nous voulons, moins nous sommes libres. Ce n'est pas qu'il faille confondre formellement et absolument la volonté et le désir. Accablés de chaleur, nous avons le désir de boire de l'eau froide et, parce que nous savons que cela nous ferait du mal, nous avons la volonté de ne pas boire. Mais, encore que ceci soit une distinction importante, ce n'en est pas une fondamentale. Ce qui nous pousse à boire, c'est une passion. Ce qui nous en empêche, c'est une passion à la fois plus générale et plus forte. Le désir de ne pas mourir et de ce que cette passion, en rencontrant une autre, et luttant contre elle, produit dans tout notre être une tension très forte. Elle n'en est pas moins une passion, si tant est qu'il ne faille pas dire qu'elle est une passion plus passionnée encore. La politique de Locke. En politique, Locke a été l'adversaire de Hobbes, dont nous avons plus haut rapporté les théories despotistes. Il ne croit pas que l'état naturel soit la guerre de tous contre tous. Il croit que l'homme se met en société, non pas pour échapper à l'anthropophagie, mais pour garantir et défendre plus facilement ses droits naturels, propriété, liberté personnelle, légitime défense. La société n'existe que pour protéger ses droits, et sa raison d'être est dans ce devoir de les défendre. Le souverain n'est donc pas le sauveur de la nation, il en est le mandataire et le magistrat. S'il viole les droits de l'homme, il agit tellement à contresens de sa mission et de son mandat que l'insurrection contre lui est légitime. Le sage Locke, comme l'appelait toujours Voltaire, est l'inventeur des droits de l'homme. En politique religieuse, il est libéral encore et tient pour la séparation des églises et de l'État, l'État ne devant avoir aucune religion à lui et n'ayant pour office que de protéger également la liberté de tous les cultes. Locke a été discuté pied à pied par Leibniz qui, sans accepter les idées innées de Descartes, n'acceptait pas non plus les idées sensations de Locke et qui disait « Il n'y a rien dans l'intelligence qui n'ait été d'abord dans les sens, soit, excepté l'intelligence elle-même. L'intelligence n'a pas des idées innées, nées toutes faites. Mais elle a des formes à elle où les idées se rangent et prennent forme, et ceci est le propre même de l'intelligence. Et ce sont ces formes que Kant appellera plus tard les catégories de l'entendement, et au fond, par ces idées innées, Descartes n'entendait pas autre chose. Locke a eu une prodigieuse et comme impérieuse influence sur les philosophes français du XVIIIe siècle.